puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are
the children.
La puce à l'oreille sur Radioscope 107.
Bonjour. Aujourd'hui, mon invité, Dimitri Houbron, entretien enregistré le vendredi 17 avril avec le député En Marche de la 17e circonscription, également membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale, pour évoquer évidemment la question sanitaire, la question économique et les libertés individuelles. Alors, dans un premier temps, Dimitri Houbron, racontez-nous le confinement, l'arrivée des nouvelles mesures. Vous l'avez, vous, vécu comment en qualité de député?
Eh bien, écoutez, quand la catastrophe est un peu arrivée au début, les gestes barrières étaient préconisés. Et donc, je sais que très rapidement, au sein de mon local, on avait mis en place ces gestes barrières avec du gel hydroalcoolique, des masques dès que c'était possible, même pendant mes permanences avec les citoyens, qu'on invitait à prendre du gel pour leurs mains, transmission de documents très vigilante, etc. Donc on avait déjà essayé d'appliquer au maximum les mesures, et le week-end qui a précédé le discours du président de la République qui annonçait le confinement, je sais que j'avais annulé plusieurs de mes visites en circonscription, notamment les assemblées générales avec des personnes d'un certain âge, pour éviter justement de prendre le risque de les contaminer, puisque nous avions connaissance de quelques cas à l'Assemblée nationale et je voulais absolument pas prendre de risque en allant à leur rencontre, malgré toutes les préconisations et toute la prudence qu'on pouvait mettre en place. Et donc un confinement qui m'a paru assez logique quand on voit le phénomène mondial et tous les pays qui ont dû en venir à cette méthode, hélas. Et donc beaucoup de questionnements au début, un peu compliqué de s'organiser dans son travail, notamment avec l'Assemblée, parce que autant avec mon équipe locale, c'était assez simple, on continuait simplement par le numérique, ce que nous faisions déjà en physique. Par contre, c'est vrai que le travail de l'Assemblée nationale a mis quelques jours à se réorganiser, et notamment le travail en commission des lois.
Il n'y a pas eu un décalage dans l'urgence ressentie localement et ce qui a été décidé ensuite au sommet de l'État?
Je pense que l'objectif initial était de limiter au maximum, je dirais, l'impact que pouvait avoir des mesures telles que le confinement, parce qu'il est clair que le confinement aura des conséquences assez incroyables, notamment sur notre économie et sur nos commerçants, et sur même finalement chacune et chacun de nos concitoyens, d'un point de vue sanitaire bien sûr, mais au-delà, d'un point de vue social aussi, puisque ça crée encore plus, je dirais, de disparités sociales, le fait d'être dans ce type de mesures. Est-ce qu'il y a eu un décalage? Je ne pense pas. Je pense que chacune des décisions a été prise en concertation et sur les conseils des scientifiques qui essayent d'apporter des réponses, même si on sait que c'est très délicat, même pour la communauté scientifique, qui n'est pas forcément d'ailleurs unanime sur tel ou tel sujet. En tout cas, je pense que les décisions ont été prises de façon proportionnée. On a essayé de retarder au maximum cette étape du confinement qu'on savait particulièrement difficile pour nos concitoyens. Mais je pense qu'il a bien fallu prendre cette décision, elle était bienvenue, et on espère qu'elle sera respectée, cette mesure, jusqu'au 11 mai au moins, pour une sortie progressive par la suite.
On va parler davantage, là, pour l'instant, de questions sanitaires et dans la circonscription. L'organisation des soins, le CPTS du Grand Douaisis à l'Hôtel de Ville, sont des dispositifs qui répondent véritablement aujourd'hui de façon suffisante à la gestion de cette crise sanitaire?
Je pense que cette démarche déjà du CPTS est absolument incroyable, hein, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, à 20h, on est invité, bien sûr, à remercier le personnel de santé, et on pense souvent au personnel de l'hôpital. Mais il faut aussi rappeler que ce CPTS est constitué de professionnels de santé, alors qu'il y a des infirmières, des kinés, des médecins et bien d'autres, qui sont bénévoles, et qui viennent par un roulement chaque jour, toute la journée, dans l'hôtel de ville de Douai pour répondre au téléphone aux inquiétudes de nos concitoyens, pour les orienter, pour les guider, pour essayer de faire un suivi aussi, parce qu'on sait combien c'est important lorsqu'il y a des symptômes de rappeler quelques jours après pour voir si ces symptômes se sont aggravés ou au contraire si les choses se sont améliorées. Donc un gros travail qui est fait par ce personnel à titre bénévole, et je tiens véritablement à les saluer pour ça, et notamment Salia Grévin qui est à la manœuvre. Donc est-ce que c'est suffisant? Je pense que c'est déjà une réponse incroyable apportée à chacune et chacun de nos concitoyens. Aujourd'hui, les médecins sont à pied d'œuvre. Et le personnel de l'hôpital est bien sûr mobilisé et prêt, en cas de Covid-19, à prendre en charge chacune et chacun de nos habitants. Donc pour l'instant, la situation dans le Douaisis est plutôt, je dirais, bien maîtrisée. Il faut être vigilant, toujours respecter les mesures de confinement, les gestes barrières. Et puis bien sûr, le message est clair, restons chez nous et on aidera ainsi tous nos personnels soignants à bien faire leur travail.
Le confinement, il peut parfois être compliqué. Vous êtes investi, entre autres, sur le champ des violences conjugales, avec un réseau de lutte contre ces violences conjugales. Actuellement, les chiffres émanant de la police ne montrent pas un signalement supérieur. C'est-à-dire que ça se passe dans la normale, ou alors il faut rester vigilant malgré tout à cette problématique, ou c'est que les personnes victimes ne peuvent peut-être pas facilement aujourd'hui aller déposer plainte?
Je pense que très clairement, pour tout vous dire, on a eu une audition hier de la DACG, la directrice des affaires criminelles et des grâces, en commission des lois, et on lui a posé la question justement des cas de violence conjugale, est-ce qu'on a constaté une augmentation des plaintes? Alors bien sûr, il n'y a pas d'augmentation des plaintes. Est-ce que pour autant ça veut dire que les violences sont moins importantes ou qu'elles n'ont pas augmenté? Je crois tout le contraire, pour tout vous dire. J'ai une vraie crainte sur bien sûr une augmentation des violences du fait de la promiscuité et puis du fait voilà d'être bloqués je dirais, presque H24 les uns avec les autres. Ça peut décupler ce phénomène des violences conjugales et intrafamiliales. Et je pense que la vraie difficulté aujourd'hui, c'est, étant confiné, il est beaucoup plus compliqué d'aller porter plainte. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi j'ai invité au niveau départemental la direction départementale chargée justement de lutter contre les violences conjugales, de mettre en place dans les centres commerciaux et notamment à Carrefour et Auchan pour ce qui concerne les habitants de ma circonscription, des centres d'accueil pour permettre aux femmes, lorsqu'elles vont éventuellement faire les courses, d'être accompagnées, d'être guidées et de pouvoir alerter à ce moment-là par du personnel qui, bien sûr, est constitué par le réseau du territoire du Douaisis, je pense à l'association Solfa, à Brisons le Silence et bien d'autres qui travaillent encore aujourd'hui, mais plutôt par le biais du téléphone, mais qui pourraient mettre en place un accueil. C'est en cours de négociation avec les centres commerciaux concernés. On espère qu'ils répondront présents à cet enjeu. En tout cas, moi, j'ai une vigilance particulière et je ne crois pas du tout que l'absence d'augmentation des chiffres démontre une baisse des violences. Au contraire, je pense que elle cache beaucoup de violences. Alors bien sûr sur les femmes, mais aussi à mon avis sur les enfants. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on arrive à rester vigilant, à ce que les réseaux mis en place, à la fois les travailleurs sociaux et puis les associations, puissent être un relais de ces familles qui sont très souvent désemparées. Donc il faut absolument qu'on réponde présent à ces enjeux-là.
Ces points d'écoute, ces points d'accueil, en complément déjà des pharmacies également qui ont hérité en quelque sorte de cette problématique.
Bien sûr, et je pense qu'il faut démultiplier les lieux, les quelques lieux, hélas, où nous sommes autorisés à nous rendre. Il faut qu'ils soient des portes d'entrée à ces familles, à ces femmes qui sont victimes. Donc je pense qu'il faut décupler tous ces éléments-là pour permettre d'avoir au moins un lieu de dénonciation pour toutes ces victimes.
Autre question, toujours sur les problématiques liées au confinement, l'univers carcéral. Vous êtes entretenu il y a une semaine avec les représentants de la pénitentiaire de Douai. Je viens d'avoir, moi, Madame Semaille au téléphone, donc représentante syndicale pour la CGT, qui nous dit que ça reste terriblement compliqué pour nous. On a un masque par journée, les gants, ça commence à s'épuiser. pas suffisamment de savon. Les kits d'hygiène des détenus n'ont pas non plus été renforcés. Deux cas actuellement de maladies et d'isolement donc dans la prison. C'est compliqué quand même du côté de la carcérale.
Bien sûr. Alors, avant toute chose, je voudrais justement saluer ce personnel de l'ombre qui est très rarement remercié, mais qui continue ce travail de façon admirable et qui est d'un dévouement absolument incroyable. Donc, je tiens vraiment à les saluer pour ça, parce que les circonstances, vous l'avez dit, sont particulièrement compliquées en cette période. Oui, j'ai échangé avec, bien sûr, la représentante syndicale et puis la direction pour savoir un peu quelle était la situation. Dans l'idéal, j'aurais voulu venir visiter l'établissement, mais voilà, j'ai bien compris, malgré mon droit constitutionnel, qu'il fallait aussi être pragmatique et que les difficultés étaient telles qu'il valait mieux éviter une visite à l'heure d'aujourd'hui. En tout cas, on a échangé en visio assez longuement les uns les autres. Bien sûr, l'urgence initiale était de donner tous les stocks de masques disponibles au personnel de soins. C'est ce qui a été fait. On a auditionné le directeur de la pénitentiaire avant-hier, et tous les stocks qui étaient en leur possession, en tout cas une bonne partie, a été donné au personnel de soins qui étaient les premiers victimes de ce phénomène. Cela étant, la ministre très rapidement au mois de mars a fait des commandes de masques, mais comme nous le savons tous, cette pénurie elle est mondiale et ces masques tardent à arriver. Je sais que le directeur de Douai est particulièrement attentif à cette situation. Il a d'ailleurs pris l'initiative. Normalement, il devait être donné un masque par service, un service de 6 heures. Il a décidé d'en donner deux par service pour permettre véritablement une meilleure protection de ses personnels. Pour l'instant, ils ne sont pas en pénurie. Bien sûr, le stock est assez mince. Régulièrement, ils sont réapprovisionnés, mais c'est évident que ce sont les personnels en ligne directe qui sont pour l'instant protégés, et que l'idéal ce serait que l'ensemble des personnels soit protégé également par ces masques et par ces gels hydroalcooliques. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience. Le directeur de la pénitentiaire nous a annoncé que des chaînes de production en interne étaient mises en place un peu partout en France, qui permettra d'être autosuffisant dans quelques jours. Donc on est particulièrement attentif à la livraison de ces masques pour permettre à chaque personnel, je dirais, d'être bien protégé. La question des détenus se pose aussi. Je sais que il y a eu un cas compensé d'ailleurs, un décès compensé d'ailleurs dû au Covid-19, mais qui semble avoir été démenti par une autopsie par la suite. Vrai ou pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le risque est permanent. Il faut limiter au maximum les accès avec l'extérieur, ce qui rend encore plus compliqué la détention pour les détenus, puisque parloir finalement interdit, ce qui a créé d'ailleurs quelques difficultés dans d'autres établissements en France, notamment à Marseille, à Lille. On a beaucoup de chance avec la maison d'arrêt de Douai qui pour l'instant a réussi à maintenir ce lien. Des mesures ont été prises avec une augmentation du forfait téléphonique pour les détenus qui peuvent plus facilement et plus régulièrement joindre leur famille. De la même façon, ce dispositif est une excellente chose dans les établissements qui ont déjà bénéficié du téléphone par cellule. Dans beaucoup d'établissements, c'est déjà le cas. Ce n'est pas le cas pour l'instant à la maison d'arrêt de Douai. Et donc, le fait d'augmenter la capacité téléphonique, finalement, rend un peu plus compliqué le travail encore du personnel pénitentiaire, puisqu'il se retrouve contraint à beaucoup plus de déplacements en détention pour les amener jusqu'au téléphone qui est à l'extérieur de la cellule. Donc, bien sûr, on a conscience de la difficulté des conditions de travail des personnels, des difficultés pour les détenus. On est particulièrement, j'ai alerté d'ailleurs l'Élysée et Matignon sur cette nécessité de saluer le dévouement de ces personnels et l'impérieuse nécessité de donner suffisamment de matériel pour le personnel pour assurer leur mission de la façon la plus sécurisante possible.
Dimitri Houbron, député En Marche de la 17e circonscription du Nord, membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale. La suite de cet entretien juste après Gérald Gentil.
Radio Scarpe Sensée, la puce à l'oreille.
Je mange une fois par jour, je mange une fois pour toi, je mange une fois pour toutes, et toi tu doutes de moi. Quand arrive le mois d'août, je te devrais être heureuse, mais les filles de la redoute me rendent frileuse. Alors je dis et je redis, je remets radis, hardi, je ne suis plus en hypoglycémie. Mais je voudrais te plaire, être un peu plus légère, me fondre enfin dans l'air du temps qui passe et me rend lasse de prendre de plus en plus de place. J'ai peur que tu me remplaces. Tiendrai, oui c'est sûr, si de plus en plus il m'aime. De toute façon j'ai pas le choix, si ma balance craque, si je craque il me balance. J'irai jusqu'au zéro, jusqu'à devenir particule, avec un supercule, pour que mon Hercule me trouve particulièrement. Te plaire, être beaucoup plus légère, me fondre enfin dans l'air du temps qui passe et me rend lasse de prendre de plus en plus de place. J'ai peur que tu me remplaces. Je ne mange plus du tout, j'ai même plus faim, c'est fou. Il n'y a plus qu'en tombant dans les pommes que je retrouve mon homme. Tous les jours je perds des plumes, j'effleure à peine le bitume. Et les jours de grand vent, je m'accroche aux passants. Moi qui voulais te plaire, être beaucoup plus légère, me fondre enfin dans l'air du temps et me rendait lasse de prendre de plus en plus de place. J'avais peur que tu me remplaces.
Radio Scarpe Sensée, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
Aujourd'hui, entretien avec Dimitri Houbron, enregistré le vendredi 17 avril avec le député En Marche de la 17e circonscription du Nord, membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale. La crise du Covid-19 qui remet pas mal de choses en cause, notamment la politique budgétaire de l'hôpital. Aujourd'hui, il faudra penser les moyens attribués à l'hôpital de façon différente de ce qu'on ne faisait avant. La tarification à l'acte, ce sera peut-être à revoir dans l'après-crise. Le budget alloué aux services de soins en proportion du PIB, tout ça, ça vole en éclats aujourd'hui.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a un avant et un après Covid-19. Que cette crise nous a permis de constater à la fois que nous avions un pays avec un service public exceptionnel, qui bien sûr dans bon nombre d'endroits et notamment dans l'Est est en souffrance permanente à l'heure actuelle. Et donc aujourd'hui ce qui nous démontre cette crise, c'est que l'État doit se recentrer sur ses premières missions, ses missions primaires, ses missions régaliennes, la sécurité, la santé, la justice, l'éducation. À partir du moment où l'État change ce braquet et recentre ses efforts sur ses premières nécessités, je dirais, je pense qu'aujourd'hui les Françaises et les Français ont constaté que là était la mission première de l'État et que peut-être que depuis quelques décennies, l'État s'est un peu perdu dans beaucoup de compétences qui auraient pu être données au niveau local, au niveau des régions, au niveau des départements, et qu'aujourd'hui, il est plus que temps que l'État se recentre sur ses missions premières, mette les moyens en conséquence, bien sûr pour les hôpitaux, bien sûr pour, je pense aussi à la justice qui aujourd'hui est quasiment à l'arrêt, elle est à 20% d'activité, des avocats qui sont après en plus leur mouvement de grève qui les a mis en difficulté déjà sont encore plus en difficulté aujourd'hui et on pense bien évidemment à eux, aux magistrats qui doivent travailler de chez eux quand ils le peuvent, mais un service de grève qui ne peut pas travailler en télétravail. Et donc il y aura aussi des questions par rapport au stock qui s'accumule et qui devra être traité dans l'année. Il y a aussi la question des policiers. On constate qu'ils sont peut-être insuffisants sur les territoires pour assurer le respect, par exemple, des mesures de confinement.
Tout ce que vous dites là, ça a déjà été scandé, crié dans les rues. 15 000 morts pour qu'on se pose la question de façon beaucoup plus prégnante. Aujourd'hui, c'est pas cher payé.
Non, ben je trouve qu'aujourd'hui... on laisse à penser que la France est le seul pays confronté à cette crise. Tous les pays du monde sont confrontés à cette crise du coronavirus. Et quand on voit de quelle manière l'État français se débrouille avec cette crise, je pense qu'on est loin de devoir rougir par rapport aux circonstances. Je pense que les mesures ont été prises et elles étaient bien prises. Aujourd'hui, on est dans une situation où voilà, l'État s'est engagé sur plein de compétences diverses, qui a augmenté bien évidemment ses dépenses dans ces secteurs-là, ce qui n'a pas permis d'investir dans les secteurs principaux. Et donc, je ne dirais pas que les 15 000 morts ont permis enfin d'entendre ce cri. Simplement, ça permet de relativiser sur les autres compétences qui nous paraissaient importantes hier, mais qui nous paraissent dérisoires quand on voit la situation du pays aujourd'hui. Et donc, je pense que les Françaises et les Français ont bien compris aujourd'hui que un État qui fonctionne est un État qui s'assure que ses principales missions soient bien remplies. Je pense que la population est prête à admettre aujourd'hui que l'État se désengage sur d'autres sujets et laisse la main à d'autres collectivités.
Un mot sur l'économie et l'économie locale avec des mesures qui ont été prises pour venir en aide aux TPE, pour venir en aide à des secteurs d'activité qui aujourd'hui sont à zéro, véritablement, sans aucune activité. Des compléments locaux sont indispensables, je pense notamment par exemple commerce de bouche, hôtelier, commerce de proximité non encore autorisé à ouvrir.
Bien sûr, je pense que bien sûr il y a eu des. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale est en train d'être examiné le deuxième projet de loi de finances rectificatif qui a pris en compte aussi les premières remarques faites par notamment les petits commerçants qui n'étaient pas forcément suffisamment protégés dans les premières mesures qui ont été prises. Donc aujourd'hui, ils sont davantage entendus. On a aussi entendu cette nécessité de récompenser davantage les fonctionnaires qui ont eu un surplus d'activité ou qui aujourd'hui maintiennent la continuité du service public avec une prime spécifique pour les soignants. On a aussi l'aide de 150 euros des allocataires du RSA pour aider justement ces familles les plus en difficulté. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que l'État ne pourra pas tout seul. Ce que je constate aussi, c'est que beaucoup de collectivités en France ont compris cette nécessité de s'engager aussi. Je vois des agglomérations dans le Nord qui mettent en place des enveloppes de soutien direct aux commerçants notamment, vous l'avez dit, aux hôteliers, aux restaurateurs, pour leur permettre d'assurer, par exemple, la prise en charge d'un loyer, la prise en charge des charges, qui permettra demain de maintenir à flot, même si la situation ne sera pas parfaite, en tout cas de leur permettre de survivre à cette crise. Quelques mesures ont été prises dans le Douaisis. Je pense que bien sûr elles sont bienvenues, mais véritablement, j'espère véritablement que un effort supplémentaire sera fait, notamment par l'agglomération, pour davantage venir en aide, parce que les 2 millions débloqués finalement sont un prêt qui ne conviennent pas aux commerçants, qui considèrent que, étant déjà en situation compliquée, il leur paraît encore plus compliqué de s'endetter. Et je vois des agglomérations, par exemple, qui sont plutôt sur des aides directes, qui me paraissent beaucoup plus cohérentes et en adéquation avec les besoins du territoire. Donc, je pense que on peut aller encore beaucoup plus loin dans l'investissement des collectivités dans le Douaisis.
Ce sera également peut-être aux consommateurs demain d'apporter leur soutien prioritairement vers ces commerces qui ont souffert.
Bien sûr. Aujourd'hui, on a des commerces de centre-ville qui sont bien sûr fermés. Et demain, j'invite bien sûr tous nos concitoyens à bien sûr consommer local, à peut-être augmenter leur consommation dans les mois qui suivront ce Covid-19. On sait que la période estivale est particulièrement lucrative pour notamment les restaurants, les hôtels, les bars. Il faudra bien évidemment, dans la mesure des annonces qui seront faites par le président de la République à la sortie du confinement, être en première ligne pour sauver nos commerçants. Moi, je suis en train de mener une réflexion pour éventuellement mettre en place un fonds de solidarité supplémentaire pour les tout petits commerçants du territoire de la 17e circonscription, qui serait financé par des dons. N'ayant plus de réserve parlementaire, j'essaie de trouver des alternatives. Depuis le début de mon mandat, je fais des dons mensuels de 500 euros. Bien sûr, je serai le premier à mettre sur cette cagnotte qui sera mise en place mes 500 euros. Et j'inviterai bien sûr l'ensemble des concitoyens de la circonscription à faire, dans la mesure de leur capacité, un don qui servira à un fonds de solidarité qui sera bien sûr dédié à de tout petits commerçants dans la circonscription pour les aider à tenir et à franchir cette étape compliquée et pour s'assurer que la vitalité du territoire soit préservée après la crise.
Forcément, les citoyens actuellement suivent avec une grande attention chaque annonce de la part de la présidence de la République. Quand les mesures sont prises, les mesures de confinement par exemple, est-ce que la commission des lois a été associée à ce travail ?
Bien sûr. Comme je vous l'avais dit au tout départ, c'est vrai que on a mis quelques jours à s'acclimater et à s'organiser dans cette nouvelle configuration. Aujourd'hui, chaque semaine, on a plusieurs réunions par le biais d'applications dématérialisées, des visios, de la commission des lois. On a mené beaucoup d'auditions sur des thématiques en lien avec, bien sûr, les expertises de la commission des lois. La question de l'application de tracking a été abordée, les questions liées aux libertés fondamentales qui seront inhérentes à cette application sont bien sûr étudiées. La situation carcérale, pour faire un point sur l'ensemble du territoire français sur la situation, sur bien sûr le fonctionnement judiciaire aujourd'hui. Donc les thématiques qui touchent habituellement aux compétences de la commission des lois continuent d'être étudiées, d'être auditionnées, d'être réfléchies, avec bien sûr la capacité pour chacune et chacun de nos concitoyens de suivre sur le site de l'Assemblée nationale ses auditions et ses réunions. On a voulu être totalement transparent aussi dans le travail qui est fait malgré les difficultés. Donc je pense que, bien sûr, aujourd'hui, notre principale préoccupation en tant que commission des lois, c'est de s'assurer que les mesures qui sont prises et qui seront prises demain ne remettent pas en cause les libertés fondamentales au point où elles seraient jugées disproportionnées, ces atteintes aux libertés par rapport à l'objectif bien sûr sanitaire que nous comprenons tous.
Est-ce que l'on peut imaginer des mesures de déconfinement sans connaître si demain on sera en mesure de fournir des masques de façon suffisante, d'avoir des tests et de virologie et de sérologie mis en œuvre rapidement? Ça va être compliqué tout ça de se dire dans quelle mesure on va pouvoir déconfiner là aussi. Vous avez une veille dans la commission des lois sur, j'ai envie de dire, l'application saine de ces mesures et dans l'intérêt de la santé de chacun.
Ce qui est évident, et vous l'avez dit, c'est que aujourd'hui, nous manquons de masques. Malgré toutes les commandes faites par le gouvernement, la pénurie est mondiale. Et donc forcément, on a beaucoup d'entreprises qui ont été réquisitionnées pour mettre en production des masques, des respirateurs et bien d'autres choses nécessaires. D'ailleurs, même des grands groupes de cosmétiques sont mis à produire des gels hydroalcooliques. Donc l'ensemble du pays est mobilisé pour répondre à cette ambition, pour que le 11 mai, chacune et chacun puisse bénéficier d'un masque que le président a appelé grand public. On voit sur les territoires beaucoup d'initiatives, des couturières qui, sur tout le territoire, essayent de produire des masques pour l'ensemble de nos concitoyens. Je voyais encore ce matin un article, la ville de Lorient-Plan qui a commandé des masques pour l'ensemble de ses habitants. Donc je pense que en termes de capacité, il nous reste un peu moins d'un mois, mais on sera, je le pense, en capacité de donner un masque à chacune et chacun de nos concitoyens pour lui permettre de faire les déplacements nécessaires. Ce qui est évident, c'est que cette sortie du confinement, elle sera progressive, et que il est bien évident que les gestes barrières seront toujours préconisés, que le 11 mai ou le 12 mai, on ne sera pas invité à faire des barbecues chez le voisin ou à aller à quelques festivités ou autres.
Mais on pourra se croiser aux sorties des écoles. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. On nous annonce le retour à l'école des jeunes enfants, la possibilité du retour en crèche. Ce sont quand même des lieux de socialisation, ces endroits-là.
Bien sûr. Alors je sais que ça a été d'ailleurs particulièrement critiqué par les oppositions, ce désir, cette décision du président de la République de réouvrir les écoles. Peut-être rappeler que cette réouverture, elle sera progressive et qu'on aura vraiment les détails complémentaires dans 15 jours. Pour l'instant, les éléments qui se dégagent, c'est qu'il y aura une pré-rentrée des enseignants et des élèves, que cette rentrée ne sera pas obligatoire. Véritablement, donc les parents qui s'inquiètent, qui veulent garder leur enfant chez eux, seront en capacité de le faire, que les classes seront organisées par petits groupes, avec un maximum de 5 élèves, et qu'il y aura un mixte d'enseignement à distance et en présence dans l'école. Ceux que nous invitons à revenir en classe sont ceux qui sont les plus en difficulté, et ceux qui n'ont pas de moyens de communication, parce que on pourrait se satisfaire de cette situation, mais ça serait totalement nier la réalité, c'est-à-dire que on a entre 5 et 8% des élèves qui ne donnent plus de nouvelles à leurs enseignants à l'heure actuelle, qui sont totalement en décrochage, qui ne peuvent pas suivre une scolarité même à distance convenable, qui n'ont pas forcément les moyens numériques pour d'ailleurs le faire. Et donc l'idée, c'est de réouvrir pour ces enfants, pour leur permettre d'avoir une, même si elle n'est pas normale, une scolarité qui ne leur fasse pas prendre trop de retard par rapport à septembre prochain. Et il y aura également mis en place des modules de soutien d'accompagnement gratuits et des colonies dites de vacances apprenantes. Et donc la volonté, c'est véritablement d'être en accompagnement des enfants les plus en difficulté et non pas de réouvrir comme avant le confinement toutes les écoles et les classes comme si de rien n'était. Il est évident qu'il y aura des mesures sanitaires et de sécurité qui seront prises et que on ne revient pas à la situation précédemment établie.
Dimitri Houbron, député de la 17e circonscription du Nord, invité aujourd'hui dans la puce à l'oreille, interview enregistrée le 17 avril 2020. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cet entretien.
Radio
Scarp Sensé.
Radio Scarp Sensé.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là.
Sous mon sang là, creux, nade. Sous mon sang là, regarde.
Radio Scarpe Sensée, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
Aujourd'hui, entretien avec Dimitri Houbron, député En Marche de la 17e circonscription et membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Émission enregistrée le 17 avril 2020. Je rappelle, Dimitri Houbron, que vous faites partie de la commission des lois. J'évoquais tout à l'heure les tests, qu'ils soient virologiques, sérologiques, du moment où on sera en mesure de les effectuer en nombre. Ces tests, on doit les rendre obligatoires et on peut étendre la question, dans un plus long terme, à la vaccination. La liberté individuelle, elle s'arrête où quand il est question de santé publique?
Je pense que, comme vous l'indiquez, l'idée, c'est d'avoir des tests qui soient d'ailleurs livrés le plus rapidement possible. Je sais que les commandes ont été faites, il faut que les tests arrivent, il faut que l'ensemble de nos concitoyens, alors peut-être pas l'ensemble des concitoyens, je dirais ceux qui, d'une part, sont à risque en priorité, ceux qui sont en contact régulier avec beaucoup de personnes seront aussi testés en priorité. L'idée, c'est que une personne ne puisse pas refuser un test, parce que l'ambition, c'est d'endiguer l'épidémie du Covid.
Ne pas refuser, c'est un euphémisme pour dire obligé.
Bien sûr. Alors, oui, on ne va pas obliger de force une personne. Cela étant, une personne qui refuserait de faire le test serait dans l'obligation d'être confinée chez elle. Donc, ce ne serait pas une obligation en tant que telle. En tout cas, si une personne veut sortir du confinement, il est évident, à mon sens, qu'il faut qu'elle se prête à l'exercice pour, au-delà même de sa sécurité personnelle et de sa santé personnelle, de protéger les gens qui l'entourent. On ne peut pas lutter contre un virus de la même manière qu'on peut lutter contre un autre phénomène de société ou contre un phénomène de guerre classique. Aujourd'hui, on a besoin que l'ensemble de nos concitoyens respectent bien sûr les règles établies, et se plie à quelques restrictions. Nous, notre vigilance, c'est que ces restrictions ne soient, je dirais, que liées à la lutte contre ce Covid-19 et visent à assurer la santé de nos concitoyens. Dès lors que ces mesures iraient au-delà, nous sommes bien sûr vigilants à ne pas le permettre. Et donc, une mesure qui obligerait les gens à subir le test, alors obligerait directement ou indirectement par un confinement obligatoire s'il refuse, me paraît totalement en adéquation avec les ambitions qui sont défendues notamment par la Cour européenne des droits de l'homme sur les libertés individuelles. Donc je pense que aujourd'hui la population le comprend bien, sauf exception, et que ce n'est pas de gaieté de cœur ou par plaisir que l'on prend ce type de mesures.
Dans ce cas-là, ça sert à quoi le tracking? Si on confine les personnes qui ne veulent pas se soumettre au test et l'on confine les personnes qui seraient positifs au test, c'est-à-dire porteurs, le tracking, il sert à quoi à ce moment-là?
Le tracking, c'est simplement pour les personnes qui sont volontaires. D'ailleurs, il n'y aura pas de caractère obligatoire. La capacité, quand ils se promènent dans la rue et qu'ils rencontrent quelques personnes, de savoir si ils ont été en contact de près ou de loin avec une personne qui à des risques d'être contaminé par le virus. L'idée, c'est, dès lors qu'on est alerté par l'application, de pouvoir prendre les mesures nécessaires, limiter les contacts encore plus avec les gens qui nous entourent et s'assurer qu'on n'est pas soi-même contaminé. C'est des mesures qui ont été prises dans d'autres pays, qui ont montré un plutôt bon résultat, mais les scientifiques sont unanimes pour dire qu'il faut attendre d'être en capacité de pouvoir faire des tests pour pouvoir mettre en place ce type de dispositif, sinon on ne pourra jamais connaître les gens qui sont éventuellement malades du Covid-19 ou ceux qui l'ont été par le passé. Donc la réalité et l'efficacité de l'application, elle sera si l'ensemble de nos concitoyens s'en emparent, parce que ce sera que les volontaires qui pourront la mettre en place, et bien sûr si on a les outils en parallèle qui sont indispensables, donc les tests, les masques et les autres objets sanitaires indispensables.
Il y aura un avant et un après Covid-19 dans la façon de penser le vivre ensemble?
Je le pense. Et en même temps, je pense que ce Covid-19, cette crise, elle est encore devant nous et pas derrière nous. Et donc, il est un peu compliqué pour moi de déjà imaginer l'après. En revanche, je sais que beaucoup sont attentifs et réfléchissent. Hein. Nous-mêmes, dans notre groupe politique, on essaye de voir de quelle manière on pourrait aussi interpréter et réfléchir à tous les sujets qui sont les nôtres, mais sous l'égide de cette crise. Je sais que le président de la République a esquissé quelques perspectives, avec notamment un investissement massif dans la transition écologique, avec une relocalisation de certaines productions liées à la souveraineté nationale ou européenne, le renforcement des coopérations européennes pour anticiper justement des futures épidémies, le plan d'investissement massif vers la santé, et puis l'idée que aujourd'hui, il faut davantage valoriser le travail et l'investissement de ceux qui sont en première ligne face à la crise. Je pense aux caissières, aux aides-soignants, aux éboueurs, aux agents d'entretien, aux services pénitentiaires aussi, et bien d'autres qui sont à pied d'œuvre malgré toutes les difficultés. Donc, est-ce que ça changera radicalement notre manière de faire de la politique? Je le pense. De quelle manière nous ferons la politique demain? Ça, je ne peux pas vous le dire. J'en serais incapable parce que nous sommes encore dans la gestion de la crise. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une réflexion collective à avoir là-dessus et que il est loin d'être imaginable que nous recommencions les choses de la même manière que nous l'avons fait jusqu'ici.
La question du ce que ça coûte et du qui paiera se posera toujours, quelles que soient les nouvelles orientations qui y sont prises.
Bien sûr. Il serait totalement irresponsable et de dire qu'il n'y aura pas de conséquences. Ces mesures qui sont prises sont absolument colossales. Ça ne s'est pas produit depuis des décennies, je dirais même, peut-être même l'après-guerre. Les investissements, parce que ça paraît anodin, mais toutes ces prises en charge pour atténuer l'impact sur les commerces, toutes ces prises en charge du chômage partiel, du chômage de nos concitoyens, tous ces efforts qui sont consentis représentent un investissement colossal. D'autant que l'activité économique étant à l'arrêt quasiment, il n'y a pas de rentrée d'argent particulièrement par les taxes pour l'État. Donc il est évident que demain on aura une ardoise qui sera conséquente et qui demandera des efforts collectivement. Il faudra voir de quelle manière on absorbe une partie. Ce qui est sûr, c'est que le monde entier est confronté à cette difficulté. Nous ne sommes pas les seuls. Les États-Unis sont peut-être encore plus confrontés à ça. La Turquie, je pense aux pays les plus touchés. Et donc, ce phénomène mondial, il repensera aussi, je pense, et reposera les bases d'une économie mondiale qui, peut-être, de par ses excès, doit être aujourd'hui repensée, avec cette idée justement d'une, à mon sens, d'éviter une réponse immédiate à l'après-crise par des mesures traditionnelles, mais justement repenser notre manière de consommer, notre manière de produire, avec cette idée d'une transition écologique. Je pense que l'opportunité nous est offerte, que nous pouvons investir là-dedans, malgré la situation économique. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne pourrons pas rester avec cette ardoise et qu'il nous faudra faire des efforts collectivement.
On reviendra à la règle des 3% de déficit tôt ou tard ?
Je ne pense pas. Objectivement, je ne pense pas. Mais je pense qu'on pourrait éviter cette règle, notamment sur le sujet de la transition écologique, considérer que les investissements qui sont faits sur ce sujet-là s'exonèrent de toute règle de Bruxelles, ce qui permettrait, à mon sens, d'abord un effort mondial, voire en tout cas déjà européen, qui permettrait d'avoir une vraie volonté et une vraie efficacité. Parce qu'on le sait bien, un pays qui agit seul dans ce sujet-là n'a que peu de chances d'aboutir. En revanche, si on arrive au niveau européen à avoir cette ambition, et que cette crise nous permet d'avoir cette ambition et cet effort-là, je pense qu'on en sortira grandi, et c'est tout ce que je souhaite.
Dans ce contexte exceptionnel, vous seriez prêt à un retour, même temporaire, de l'ISF ?
Vous savez, je n'ai aucun tabou vis-à-vis de ça. Je pense que l'effort devra être collectif, que ce soit des plus riches comme des autres. Il faudra que même les entreprises, les grandes entreprises aussi puissent participer. Il en va de la survie et de la continuité de notre pays tel que nous le connaissons. Un pays qui a un service public admirable, qui a besoin aussi d'être soutenu, et donc je pense que l'effort il devra être collectif et je n'ai aucun tabou sur quelque partie de la population que ce soit.
Je vous remercie, Dimitri Roubon. Être citoyen aujourd'hui, c'est rester à la maison.
Tout à fait. Le message est bien passé.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci à vous.
Portez-vous bien.
Bonne journée.
Au revoir. Dimitri Houbron, député En Marche de la 17e circonscription, membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale, était aujourd'hui dans la puce à l'oreille. Entretien enregistré le 17 avril 2020. La puce à l'oreille, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle édition de votre rendez-vous magazine.
La puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour.
We are the world. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scap 107.